On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
Mathieu, j'aimerais discuter de deux sujets avec toi. En deuxième sujet, en Allemagne, on vient d'annoncer, j'ai lu ça dans le magazine Le Point, qu'on veut interdire le vouvoiement, parce que dans la langue allemande, comme dans la langue française, il y a le « tu » et il y a le « vous », et on veut interdire de plus en plus le « vous », et tout le monde va se tutoyer. Mais avant un sujet peut-être un peu plus sérieux, ce professeur là, du lycée Maurice Ravel, qui a dû démissionner parce qu'il avait dit à une fille d'enlever son voile, et il a reçu des menaces de mort. J'ai lu que dans 130 écoles en France, il y a des professeurs qui ont été menacés de mort. Et il y a même un livre qui a été publié, « Les profs ont peur ». Est-ce qu'on en parle beaucoup en France de ça?
Ah oui, on en parle vraiment beaucoup en ce moment. Alors, il y a deux choses. Il y a presque une espèce de basculement historique. En 89, au moment de l'affaire de Creil. L'affaire de Creil, c'est la première apparition du voile islamique dans les écoles en France, dans les lycées. Et à ce moment-là, la décision, ensuite le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, c'est une des cours suprêmes en France, mais la direction de l'école avait dit, « Désolé, vous entrez avec votre voile, vous rentrez pas. Je suis désolé, c'est la laïcité. » Et puis, Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, marquait une préférence pour la non-présence du voile, mais il avait référé ça au Conseil d'État, qui lui avait dit, finalement, vous devez les inclure à tout prix. C'est la brèche à travers tout ça. Mais la réaction première, c'est que c'était pas le directeur de l'école qui devait partir. C'était les jeunes qui devaient partir s'ils voulaient pas, les jeunes filles, si elles ne voulaient pas se dévoiler. Eh bien, aujourd'hui, 35 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Eh bien, c'est le directeur qui quitte. Et c'est la jeune qui a imposé sa loi. Donc, on voit la progression de l'islamisme dans l'école. D'autant, faut pas l'oublier, qu'il y a deux profs qui se sont fait, tu sais, de Samuel Paty et Dominique Bernard, qui se sont fait tuer par les islamistes dans les écoles françaises. Donc, les profs portent en eux, plusieurs d'entre eux, la peur de se faire zigouiller. Parce que ça fonctionne comment cette affaire-là? C'est que la jeune fille a dit, il m'a giflé, le prof, le directeur. C'est faux. Il l'a pas giflé. C'était faux. Ensuite, elle a ajusté son récit. Il m'a pris par le bras. Mais c'était faux. Là, il dit non, c'est un instant. Moi, j'ai pas été violent. Pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Elle s'est plainte sur les réseaux sociaux. Elle a fait des vidéos. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner, ça? Une dénonciation calomnieuse comme ça sur les réseaux sociaux, ça peut pousser des plus extrémistes à dire « Cet homme est un ennemi de l'islam, c'est un islamophobe, on va lui faire la peau. » Donc, le directeur a démissionné, à la fois pour se protéger lui-même, il était vers la fin de sa carrière, mais aussi pour protéger son lycée, parce qu'il redoutait qu'il y ait des conséquences. Et les profs, ils sont nombreux à avoir peur depuis un bon moment dans les écoles françaises. Il y a un rapport qui date d'autour de 2006, je pense, le rapport Aubin. Le rapport Aubin expliquait comment ceux qui veulent enseigner, par exemple, la Shoah ou l'histoire française ou certains chapitres de domaines de l'histoire de l'art ne peuvent pas dans certaines classes parce que la protestation est trop vive d'étudiants islamisés, donc pas seulement musulmans, mais radicalisés dans un islam intolérant. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ces profs-là, c'est plus possible. On n'a pas envie de risquer sa peau tout le temps. C'est parfaitement compréhensible. Donc oui, on en parle beaucoup. Il y avait eu une mobilisation, les proviseurs ou les directeurs, je le précise, il y a quelques semaines, en solidarité avec celui de Maurice Ravel. Mais finalement, c'est les islamistes qui ont gagné. Les islamistes ont gagné. Il a quitté.
Parce que Mathieu, il faut le dire, là, la loi sur la laïcité, ça ne vise pas qu'une religion, hein, c'est tous les signes religieux ostentatoires. Et là, oui, bien sûr, c'est le voile, mais c'est aussi la kippa pour les juifs, c'est aussi le turban pour les sikhs. Et à ce que je sache, corrige-moi si j'ai tort, mais les sikhs, en grande majorité, acceptent tout à fait les lois. Les juifs aussi. J'ai pas vu, moi, de professeur menacé de mort parce qu'il le dit à un étudiant d'enlever son kippa. C'est toujours la même communauté qui fait pression.
Je dirais à tout le moins la même expression radicale d'une certaine religion. On le voit, effectivement, c'est une loi sur les signes religieux ostentatoires, mais le fait est que c'est pas une épidémie de grande croix qui a dû être contenue par la loi sur la laïcité de l'État. Donc, c'est que l'islam n'est pas qu'une... Alors, l'islam, il y a des travaux intéressants là-dessus de Philippe Déribarne, qui est un sociologue français. Il a écrit un livre Islamophobie. Puis il dit qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce concept-là. Puis là, il étudie le rapport des Français à la religion musulmane. Il dit pour ce qui est de l'islam comme spiritualité, en gros, ta manière de croire en Dieu et tout ça, ben les Français ont aucun problème avec ça. Tu peux croire en ce que tu veux. Mais quand l'islam prétend codifier les relations sociales, et notamment les relations entre les sexes, et prétend communautariser les musulmans en les mettant à l'écart de tout le monde, notamment en voilant les femmes pour dire « elles appartiennent à notre communauté et pas d'interaction avec les impurs de l'extérieur », là, les Français sont contre. Donc, c'est pas qu'ils s'opposent à l'islam comme spiritualité, ils s'opposent à l'islam comme... mode d'organisation, en fait, comme civilisation, j'allais pas, en fait, comme dans ses prétentions à s'emparer de l'espace public, à imposer des revendications dans l'espace public et à modifier la culture, d'autant, on peut le dire, que la France est un pays laïque et catholique, mais c'est pas un pays musulman à l'échelle de l'histoire. Et les Français ne veulent pas que leur pays devienne un pays musulman, ce qui est, à mon avis, tout à fait respectable, tout comme je comprendrais parfaitement les Algériens qui ne voudraient pas que leur pays devienne un pays catholique. Les Marocains ne veulent pas que le Maroc devienne un pays catholique. Ben, les Français veulent pas que la France devienne un pays musulman. Et ça, je comprends ça. Et là, le problème, c'est que cette question-là, aujourd'hui, elle met la France dans une situation de tension très vive parce qu'on se demande toujours qui sera le prochain prof à y passer.
Donc, c'est un texte du Figaro. Tous les professeurs savent qu'on peut aujourd'hui mourir d'enseigner. Enseigner est rendu un métier, une profession dangereuse. Sur un registre plus léger, tu as lu comme moi dans Le Point, en Allemagne, donc on veut interdire le vouvoiement. Parle-nous de ça.
Alors, on veut l'interdire pas juridiquement, on s'entend, mais dans la culture, le vouvoiement est en train d'être déclassé par le tutoiement, un tutoiement qui se présente sous le signe de la révolution égalitaire. Donc, il y a une scène qui est racontée dans l'histoire où il y a un vieux professeur, tu sais, air docteur, air professeur, dans un café, puis là, la serveuse arrive, et puis elle dit, elle le tutoie. Puis là, il y a une... Bon, le type sait pas comment réagir, oui, ben je vous remercie, mademoiselle, bon... Et là, il y a une autre cliente qui l'interpelle en disant « Mais pourquoi vous faites ça, me semble? C'est un homme de stage, là, on peut pas l'aborder comme si c'était votre copine. » Et la serveuse répond « Ah, c'est parce que je fais ce métier-là que vous pensez que j'ai pas le droit de tutoyer les autres? Vous croyez que je suis dans un rapport hiérarchique avec les autres et que je dois m'incliner par le vouvoiement? » Donc, le vouvoiement, qui est résiduel apparemment pour les médecins, ça a effectivement été annoncé... tant qu'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, aussi bien le faire avec des pincettes, puis avec une distance, puis avec des formes. Donc, le vouvoiement demeure la marque des formes. Mais l'Allemagne, qui est une société qui avait conservé une forme de sens de la hiérarchie culturelle, donc les grands professeurs, les grands ci, les grands ça, mais aujourd'hui, elle connaît le grand mouvement tocquevillien d'aplatissement de la société. Et le tutoiement est la marque ultime de l'abolition de la distance. C'est-à-dire, t'es rien de plus que moi. T'es pas plus important. La forme, le titre, et ce qu'on oublie, je te tutoierai car nous sommes égaux. Puis ce qu'on oublie, c'est que le vouvoiement, c'était aussi une marque de politesse, une marque de respect, une marque de saine distance parce qu'on pouvait passer du vouvoiement au tutoiement. C'est-à-dire, moi, il y a beaucoup de gens que je connais avec qui ça a commencé par le vouvoiement, puis à un moment donné, on convient de se tutoyer. En plus, j'ai le vouvoiement facile. Le tutoiement, je suis québécois, donc je tutoie plus facilement que les Français ne tutoient, mais je tiens quand même à ce passage. Il y a une nuance dans ces deux mots-là. Mais c'est comme si en Allemagne, c'est une société qui culturellement avait résisté à ce mouvement, mais elle bascule.
Mais quand je dis interdire, bien sûr, pas juridiquement, mais il y a des entreprises maintenant qui disent à leurs employés, bien écoutez, arrêtez de vouvoyer vos supérieurs, vous allez les tutoyer maintenant. C'est devenu comme une règle au sein de l'entreprise.
Oui, mais si je peux me permettre, ça c'est génial, parce qu'on nous dit ça crée un rapport d'égalité. Ouais, mais ben ça demeure ton supérieur néanmoins. Hein. C'est comme quand ils ont transformé les concierges en techniciens de surface, et puis quand ils ont présenté tous les gens qui travaillent chez Walmart comme des associés. Ouais, associé, ok, ben oui, ma part alors. Où est ma part si je suis associé? Donc moi, je pense que le langage sert à camoufler, le langage sert à dissimuler, le langage, par ailleurs, ne peut pas abolir complètement la réalité. Et puis j'ai beau dire, hey, toi, patron, ben ça demeure, le mot important là-dedans, c'est pas toi, c'est patron. Et je pense, par ailleurs, qu'il y avait une noblesse, une dignité au fait, pour le plus, la personne en autorité, de dire à celui qui était plus bas, monsieur. C'est-à-dire, tu interpelles quelqu'un qui est plus bas que toi dans les hiérarchies, mais l'égalité se crée dans l'égalité de respect parce qu'on se vouvoyait tous. Mais ça, c'est l'égalité inversée qu'on propose aujourd'hui, c'est l'égalité par le bas.
Et excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est plus facile de dire « va chier » que « aller chier ». Je suis désolé, le tutoiement, après ça, il y a un glissement, puis il veut dire y a quelque chose de beau dans le vouvoiement. J'ai été ami de nombreuses années avec Denise Bombardier. C'est une amie proche. J'allais chez elle, elle venait chez moi, j'allais à sa maison de campagne, etc. Je l'ai toujours vouvoyé, Denise, toujours, parce que, bon, c'est une marque de respect. Puis je sentais aussi qu'elle n'aurait pas été à l'aise si je la tutoie. Puis c'est très correct. Puis, tu sais, il n'y a rien de pire quand tu rentres dans un commerce, puis il y a quelqu'un qui a 16 ans qui travaille dans le commerce, et même si j'ai 30 ans, là, quelqu'un qui te dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens chercher?
Ah ouais.
Je trouve ça vraiment, ça m'énerve au bout. On n'est pas des amis, on n'a pas élevé le cochon ensemble. Je suis un client, tu es un vendeur. Vous me dites, vous.
Ben, mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'ensuite, il y a des gens avec qui le tutoiement va arriver, puis d'autres avec qui il ne sera jamais naturel. C'est une scène qui est racontée de mémoire dans la biographie que Duchesne a faite de Parizeau. Puis un jour, Landry et Parizeau sont sur un bateau, puis tu sais, ils se disent qu'ils doivent devenir amis parce que ça n'a jamais été
Landry
ton
malo qui reste Parizeau.
Oui, ben, enfin, oui, ça, c'est l'échelle de l'histoire. Mais les deux essaient de se tutoyer pendant tout l'après-midi. Donc, et vous, cher Bernard, et vous, Jacques. Bon, et là, au bout de l'après-midi, ça marche pas, ça va pas se faire. Donc, ils rebasculent au vouvoiement et la relation redevient plus naturelle. Donc, il y a des relations qui sont plus naturelles au vouvoiement qu'au tutoiement. Moi, j'ai souvenir de quelques personnes, c'est assez drôle, avec qui on se dit, on se tutoie. Là, on essaye, on va jusqu'au bout du repas, mais
ça
on
marche
va pas,
oui.
Vraiment, c'est plus naturel. Mais moi, ça en dit beaucoup, justement, sur la subtilité des rapports humains, sur la complexité. Tu sais, il y a des gens, puis ça nous en dit beaucoup sur l'espèce de, ça, là, je vais avoir l'air un peu bizarre, mais sur la connexion naturelle qu'il peut y avoir entre des gens ou d'autres. Moi, il y a des gens que j'ai déjà rencontrés, on devrait s'entendre, mais on s'entend pas. La connexion est pas là. Comment tu peux l'expliquer? Tu le sais pas, mais c'est pas là. Bon, il y a d'autres gens avec qui ça se fait immédiatement. Donc, il y a les rapports entre les êtres humains, ils sont pas simplement dans la transparence absolue. Les rapports entre les êtres humains, ils sont pas dans la fusion immédiate. Les rapports entre les êtres humains, c'est pas la grande égalité en toutes circonstances. Donc, faut mettre des formes. Et le vouvoiement, c'est une étape qui permet de négocier ensuite la proximité avec quelqu'un d'autre.
Mais écoute, par exemple, on est tous les deux amis avec Jacques Godbout, là, le grand écrivain. Sûr. Jacques Godbout. Moi, je le vouvoie, Jacques.
Je le tutoie.
C'est ça, tu le tutoies. Moi, je serais incapable de le tutoyer. J'utilise son prénom. Je dis Jacques, voulez-vous, etc. Toi, tu tutoies Jacques. Mais au début, quand tu l'as rencontré, tu le tutoyais pas quand même, Jacques Godbout.
Non, mais ça s'est fait très rapidement. Je ne saurais l'expliquer. Je me souviens de la fois où ça a basculé dans le tutoiement. J'ai pas d'explication, sinon que j'ai suivi le mouvement. C'est-à-dire, il se met à me tutoyer. Puis Dieu sait que moi, en plus, j'ai le respect des formes, tout ça, mais. Mais là, je bascule. Et là, ça fait que Jacques Godbout, Dieu sait que je l'aime beaucoup, c'est un homme remarquable. On a fait livre ensemble qui était centré sur le thème où j'étais dans la position de l'élève par rapport au maître. C'est une conversation intellectuelle, mais avec l'histoire, la vie a fait en sorte que j'étais dans la position. Et pourtant, dans la vie réelle, je le tutoie. Mais c'est un privilège. De mon point de vue, c'est un privilège qu'il m'a accordé. Il a jamais dit, tu me tutoies. J'ai pas d'explication pour ça. En France, ici, j'ai un ami, par exemple, je le tutoie. Tout son univers le vouvoie. Et nous, on se tutoie. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Le tutoiement vient avec une marque supplémentaire, c'est que quelquefois, ça peut venir avec une claque sur les bords.
On a ça en commun, toi et moi. J'ai écrit un livre, moi aussi, avec Jacques Godbout. Et écoute, j'arriverai pas à le tutoyer, mais c'est très particulier. Pendant la Révolution française, on est passé au tutoiement pendant la Révolution française. En tout cas, c'est ce que je vois dans les films qui ont été faits sur la Révolution. On disait camarade, puis on tutoyait parce que le vouvoiement, c'était la monarchie, c'était le vieux régime.
Ouais. Ben, c'est l'absence de transparence, parce que le vouvoiement, ça marque une distance entre les êtres. Alors que le tutoiement, c'est on est immédiatement dans la proximité. Puis moi, le pire, c'est qu'il y a des mots. Moi, il y a des termes comme ça. J'aime le mot camarade. J'aime ça. C'est un beau mot. Parce que, tu sais, on est tous ensemble dans une bataille camarade. Ou encore, de temps en temps, je dis compagnon, parce que les gaullistes disent compagnon. Mais ça, c'est donc, tous ces mots ont une fonction. Alors que, tu sais, le mauvais côté au Québec, hey, chose! Il y a quelque chose dans ces mots-là. Tu sais, camarade ne dit pas compagnon, tu ne dis pas vous, monsieur ne dit pas cher ami. Et le génie de la langue, c'est d'être capable de marquer une petite subtilité d'un mot à l'autre. Puis au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on se comprend mieux. Mais encore doit-on comprendre ces subtilités-là. Et dans la société, j'y reviens, qui aplatit tout, hein, le grand mouvement d'aplatissement généralisé qui nous conduit à la fin dans l'horizontalité définitive et la flaque finale. ben, je suis pas certain qu'on sort gagnant de ce monde où plus rien ne dépasse.
Exactement. Puis des fois, tu peux faire des grands repas avec plein de gens autour de la table. Il y en a que tu tutoies, il y en a que tu vous vois, il y en a que ton voisin de table tutoie la personne que toi, tu vous vois. Madame, c'est complexe et subtil. Rapidement.
En trois secondes, Charles, j'étais hier soir dans un souper, un dîner, et il y avait à table une personne de la... la noblesse. Bon. Et là, certains, au début, on le vouvoie, même avec son titre. Je sais pas ce qui s'est passé au moment des fromages. On a basculé dans le tutoiement. Et là, donc, j'ai tutoyé hier, à un moment, un prince. Comme quoi, c'était étonnant. Puis, c'est un homme tout à fait honorable, respectable. Et là, je m'en suis presque voulu. Et pourtant, le tutoiement s'est installé.
Eh, hey, mon Dieu, est-ce qu'il avait une particule? J'espère que non. Merci pour votre chronique, Sieur Mathieu. Je vais vous reparler la semaine prochaine.
Plaisir,
tous les